Ouais. Thank you, sir. All good. Ah, OK. OK. Je pense que j'ai du son, hein? Je m'entends. Vous allez pouvoir trouver les notes de cours sur la table, mais aussi l'extrait que j'avais ajouté là, la semaine dernière, qui n'était pas dans les notes, qui n'a pas été ajouté encore dans les notes électroniques, là. Ça vient, ça vient. On y arrive. Je me mets une petite minuterie pour respecter notre temps, puis on va attaquer. Bonjour à tous. Vous allez bien? Heureux de vous retrouver pour le cours « Croyez-vous vraiment? » Et comme si Paul Tripp avait lu dans la pensée de certaines personnes, on va prendre le temps de développer certains aspects, certains attributs de Dieu. Avant de passer à d'autres doctrines, on fait comme un zoom in sur la personne même de Dieu. On voit quelques attributs de Dieu, dont sa sainteté, qui est peut-être l'attribut le plus étrange pour nous ou étranger à nous, parce que c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que Dieu nous est étranger, entre autres, c'est ça que ça veut dire, on va voir ça ensemble ce matin. Juste pour ceux qui se joindraient à nous en vidéo, sachez que vous pouvez vous inscrire sur notre liste d'envoi, vous pouvez recevoir les notes de cours, vous pouvez trouver les leçons précédentes aussi en vidéo et les notes de cours précédentes. Donc, on va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va attaquer. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin, tout spécialement avec le sentiment d'être en présence de celui que nous connaissons, mais qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître. Tu es à la fois près de nous comme un bon papa qui nous a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'intimité de cette relation entre le Père et le Fils et à laquelle Christ nous a invités, et par le fait même, toi-même, notre Père, tu nous as invités dans cette relation intime en Jésus. Mais en même temps, Seigneur, devenir intime avec toi ne signifie pas qu'on devient familier, ne signifie pas que nous saisissons tout ce que tu es, n'autorise pas une espèce de laisser aller dans ta présence, car tu es Dieu. Mais Seigneur, notre prière ce matin, c'est que l'étude de cet aspect de ta personne nous aide à prendre un peu plus la mesure de ta grandeur. Et qu'au lieu de nous éloigner de toi, cela nous rapproche de toi par notre admiration, par notre adoration, Seigneur. Car toi seul es Dieu. Toi seul es Dieu. Et ce matin, on veut t'adorer alors qu'on étudie les Écritures, alors qu'on cherche à te connaître davantage, on veut aussi avoir des cœurs d'adorateurs. Des cœurs qui passent de la tête au cœur, justement. Des vérités qui passent de la tête au cœur puis à la pratique. C'est le but de cet exercice, c'est le but de ce cours, Seigneur. Alors, sois avec moi alors que j'enseigne, sois avec nous alors qu'on réfléchit ensemble et fais-nous grandir en toi. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 La doctrine de la sainteté de Dieu. Je m'en tenais beaucoup aux notes. Les notes sont pas mal complètes quand même. Puis on va expliquer des choses qui ne sont peut-être pas développées dans les notes. La sainteté absolue de Dieu est le centre, un peu technique, interprétatif de toute vie chrétienne. On entre en relation avec celui qui est saint, et on va voir ensemble ce que ça veut dire. Elle révèle qui est Dieu et qui nous sommes, ce qui est réellement le péché, et oriente notre transformation notre mission et notre espérance. Beaucoup de chrétiens, ne comprenant pas ce que signifie la sainteté de Dieu ou pensant que la grâce de l'Évangile vient comme effacer la sainteté de Dieu. C'est comme si tout d'un coup, Dieu devient mon pote. Puis là, oups, ça c'est comme éclipsé. Alors, beaucoup de chrétiens n'étudient pas la sainteté de Dieu, ne saisissent pas ce que ça veut dire. C'est à la fois grand et on pourrait dire effrayant, mais beau. Parce que prendre la mesure de sa grandeur nous aide à apprécier son amour, le fait qu'il soit si près de nous. Tu sais, c'est une chose que dans la cour d'école, moi j'étais au primaire puis au début du secondaire, j'étais un nerd, vous allez dire je suis encore un nerd, c'est correct, mais avec ce que ça signifiait de péjoratif. Là, tu sais, j'étais dans mon coin, j'étais pas un jeune cool, je faisais pas de sport, je me tenais avec les nerds, puis assez rapidement, on m'attendait après l'école, on faisait des bonnes victimes, tu sais, les nerds. Fait que tu sais, un petit gars dans la cour d'école qui est seul dans son coin, qui s'intéresse à moi, c'est le fun. Mais combien j'aurais donné à cette époque-là pour que le gars le plus cool de l'école me fasse rentrer dans son cercle? Hey, ça aurait changé toute mon expérience du primaire puis le début du secondaire, complètement. Là. C'était un endroit, la seule place qui était agréable pour moi à l'école, c'était en classe parce que j'étais intelligent. C'est la seule place. Imaginez que la personne la plus cool de l'école aurait dit, « Hey, toi, à partir d'aujourd'hui, t'es mon chum. » Donc, prendre la mesure de la grandeur de Dieu, de la sainteté de Dieu, c'est à la fois effrayant, parce que tu réalises que, OK, c'est pas le petit gars dans la cour d'école, c'est quelqu'un d'infiniment grand, mais ça aide à apprécier l'Évangile lorsque tu réalises que cet être-là dit, « T'embarques dans ma gang. Je suis près de toi, je suis ton protecteur, je t'aime, je suis avec toi. » C'est vraiment une doctrine magnifique. Et je pense que beaucoup de chrétiens, comme saisissent pas ce que c'est, passent à côté. Soit parce qu'ils se sentent coupables lorsqu'ils étudient la sainteté de Dieu, puis ils savent pas quoi faire avec, soit parce que c'est comme trop abstrait, la sainteté de Dieu. Par la grâce de Dieu, on va rendre ça un peu plus concret. Objectif global du cours, amener l'étudiant à comprendre, à contempler, à intégrer la sainteté de Dieu comme une réalité fondatrice qui façonne sa compréhension de Dieu. Donc, on espère bouger un peu votre compréhension de Dieu aujourd'hui. Ça va être un peu plus complet. De lui-même et de toute sa vie quotidienne, dans une dépendance renouvelée de la grâce. À la fin de la session, l'étudiant devrait être capable d'expliquer bibliquement ce que signifie la sainteté de Dieu. C'est de ma faute si vous n'y arrivez pas. En montrant qu'elle désigne à la fois son caractère totalement autre, Dieu est autre, incomparable, et sa pureté parfaite en tout temps et en toute chose. Deuxièmement, décrire pourquoi la sainteté de Dieu est centrale au message de l'Évangile, notamment en lien avec la réalité du péché, la nécessité de la grâce, l'œuvre de Christ et l'espérance finale. Troisièmement, évaluer sa propre identité, son péché, ses motivations personnelles à la lumière de la sainteté de Dieu plutôt qu'à partir de standards culturels ou d'une simple acceptabilité morale. On a débuté le cours en parlant de l'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'on professe et ce qu'on vit, ce qu'on incarne. Bien, étudier la sainteté de Dieu devrait m'aider à réduire l'écart. Au lieu de devenir familier avec mon péché au point que je ne le vois plus puis que les gens autour de moi le tolèrent, parce que, ben, tu sais, Yannick est comme ça. Tu sais, ouais, il est chrétien, mais bon, il reste pas mal. Il est comme ça, Yannick. Tu sais, puis là, comme, même moi, je suis rendu à cet endroit-là où je suis plus troublé par mon propre péché. Tu sais, ça devrait aider à réduire cet écart-là où je vais prendre conscience. Pas pour être écrasé, pour m'approcher de ce Dieu merveilleux. Quatrièmement, identifier des implications concrètes de la sainteté de Dieu pour la vie quotidienne, en particulier dans les domaines du mariage, la parentalité, la sexualité, l'argent, le travail, la mission et la souffrance. Cinquièmement, articuler pourquoi la sainteté est le but ultime de toute étude biblique et théologique. On poursuit cette sainteté-là en montrant que la parole de Dieu vise non seulement l'information, mais une transformation progressive à l'image du Dieu saint. Dieu veut nous rendre saints. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. L'objectif, c'est que nous soyons à l'image de Dieu. Alors, comprendre la sainteté de Dieu. C'est intéressant, je pense que c'est la semaine dernière que j'ai parlé d'étudier la théologie, c'est comme avancer dans un océan, l'image de C.J. Mahaney. Il me semble que j'ai parlé de ça la semaine dernière. Quand tu veux méditer sur la personne de Dieu. Dieu nous a donné sa Bible est suffisante. Mais sa Bible sert souvent à nous aider à rêver à qui est Dieu. Pas imaginer le Dieu que je voudrais. Mais les Écritures, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand Jésus s'écrit sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est un texte qui est vraiment difficile à comprendre. Parce que Dieu ne l'a pas vraiment, vraiment abandonné, en tout cas pas pour longtemps. Mais il va vraiment, vraiment être fait pécher. Puis si Dieu avait répondu, moi je prétends que si le Père avait répondu, il aurait dit, « Mais parce que tu es la chose la plus horrible dans l'univers actuellement à mes yeux, tu es péché. » Mais est-ce que le Père aurait vraiment répondu ça ou il aurait dit, « Non, c'est dans ton expérience humaine que tu as l'impression que je t'ai abandonné. En fait, je suis avec toi, tu es extraordinaire, je vais te ressusciter dans quelques instants. » Donc, l'exemple que je vais vous donner avec ça, ou le principe que je vais illustrer, c'est que quand je lis les Écritures, des fois, je viens comme, le texte me fait plus réfléchir qu'il ne me donne de réponse. C'est volontaire. Dieu veut nous amener à méditer, à être émerveillé par des choses qui dépassent ce qu'on peut comprendre de Dieu. Et le point que Paul Tripp fait par rapport à la sainteté, c'est qu'il dit, Dieu va nous donner des images dans la Bible qui ne nous permettent pas de saisir complètement ce dont il nous parle, mais c'est là pour nourrir notre imagination. Ésaïe 6 en est un très bon exemple. La description de l'expérience d'Ésaïe lorsqu'il va dans la présence de Dieu, ça nourrit notre imaginaire. Tu lis le texte, puis tu vois une espèce de palais. Puis, vous comprenez, on voit tous un palais différent, là. Cette expérience-là de la gloire de Dieu qui vient justement, qui émane de Dieu avec les séraphins, tout ça. Dans notre esprit, on voit tous quelque chose de différent. Mais on voit tous quelque chose de la gloire de Dieu. Et donc, lorsqu'on veut... Je prends le temps de m'arrêter ici parce que lorsqu'on veut méditer, lorsqu'on veut adorer, lorsqu'on veut être transformé par des vérités de la parole, ce temps-là où tu vas dans la prière, puis où tu dis, « Mais Seigneur, quelle image magnifique tu me donnes. J'aurais aimé ça être là, j'aurais aimé ça le voir. » Puis là, certains vont être tentés de dire, « Bon, ben je verrai un jour. » Puis là, tu fermes la Bible, tu t'en vas. Non, reste là. Dieu t'a donné une intelligence pour imaginer à partir du langage qu'il te donne. R.C. Sproul, un jour, est en train de prêcher, puis quelqu'un a crié du fond de la salle, il est en train de parler de Christ sur la croix. Je ne me souviens pas de la citation exacte, mais il dit quelque chose comme, « Votre religion est quelque chose de, je vais le dire en québécois, de dégueulasse. » Cette idée que, tu sais, Dieu donne son Fils, puis là, quand tu étudies la crucifixion, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment horrible. C'est gore dans ce qu'il y a de plus gore comme image. Et puis R.C. Sproul lui a dit, oui, mais parce que c'est ça le prix de ton péché. Voyez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais toute la transaction que Dieu opère à la croix en Jésus-Christ, Dieu, je ne vais pas dire qu'il aurait pu le faire autrement, parce que Dieu fait toute la perfection. Donc, s'il y avait une autre manière de le faire, Dieu l'aurait fait. Une autre meilleure manière de le faire. Mais est-ce que ça prenait une mise en scène aussi dramatique? Est-ce que cette transaction-là n'aurait pas pu se faire dans les cieux? Et pourtant, Dieu prend le temps de réaliser notre salut sur la scène des hommes, avec le ciel qui s'obscurcit, avec les... Vous comprenez, c'est graphique, c'est comme une pièce de théâtre extraordinaire. Mais c'est parce que Dieu veut qu'on se serve de notre imagination lorsqu'on est en train de l'adorer. Je lis la Bible et je la vois. Et là, je pars dans ma tête. C'est bien, c'est correct. Après, jusqu'où je dois aller dans mon imagination, il y a des discussions sur des séries qui sont faites, qui comblent les vides des fois. Ça, c'est un autre sujet. Mais certainement, dans ta méditation, dans ton adoration, Dieu veut que ton imagination te porte à adorer. Et c'est nécessaire pour comprendre la sainteté de Dieu, parce que la sainteté de Dieu affirme que Dieu est autre. Il est l'étranger, littéralement, celui qu'on ne voit pas. C'est quoi le film de Denis Villeneuve? Je ne sais pas si ça revient à l'esprit, le film de Denis Villeneuve où C'est avec un extraterrestre, là, tu sais, finalement, comme ils ne se verront pas, là, j'ai un blanc sur l'actrice principale. Pardon? Oui, Arrival. Mais Arrival, c'est un peu cette mise en scène de l'autre, tu sais, qui est comme intangible, inaccessible, mais il est là. La sainteté de Dieu, c'est beaucoup plus que ça encore. Dieu est beaucoup plus autre que cette expérience-là. Donc, l'imagination dans la foi, ce n'est pas inventé. Ce n'est pas que je vais remplir des vides, mais c'est que je vais percevoir ce qui est réel mais invisible. Et j'étudie les Écritures, j'étudie la doctrine pour aller dans la prière. Puis dans la prière, je vais apprécier, je vais adorer, je vais concevoir un peu plus la grandeur de Dieu. Et ça, ça va changer mon cœur, ça va changer mes motifs. Ça va me disposer à me dépasser pour faire la volonté de Dieu. Dieu a pourvu à cela par les yeux du cœur qu'il nous donne. Et c'est pour ça que Paul va parler de l'illumination de notre cœur que le Saint-Esprit vient faire. Des fois, vous m'entendez dire, lorsque je prêche puis je parle de l'Évangile, je dis, il y a un moment où le message qui était très théorique, intéressant mais pas personnel, devient une mélodie. Ça devient comme quelque chose qui t'attire, comme un chant de sirène qui, tu veux aller là, Dieu t'appelle, c'est l'Esprit qui est en train d'illuminer les yeux de ton cœur. Puis cette vérité qui est comme intéressante, Dieu vient payer pour nos péchés. OK, ouais, pourquoi pas? Tout d'un coup, c'est, attends un peu, je pense que j'en ai besoin. Aïe, je pense que c'est pour moi. Ça, c'est l'Esprit-Saint qui est en train d'illuminer les yeux de notre cœur, à la fois pour nous amener dans un autre entendement, une autre compréhension, mais un autre ressenti par rapport à ça, une autre expérience par rapport à ça. Puis là, ça devient personnel, puis je réalise qu'il est mort pour moi. Paul appelle ça l'illumination. Je suis dans la deuxième page de mes notes. Recto verso. En haut, l'imagination. On ne maîtrise pas la sainteté de Dieu par une simple analyse. On a besoin que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Parce que par définition, la sainteté de Dieu dit que Dieu est autre. Et donc, ça prend du temps dans la prière, dans la méditation, aller relire Éphésiens, Ésaïe 6, aller lire la croix, comprendre la croix, mais pourquoi une transaction aussi grave, aussi grande? Est-ce que Dieu n'est pas capable juste de passer par-dessus? Mais ça me parle de la sainteté de Dieu, on va y venir dans un instant. La vision d'Ésaïe, la sainteté qui dépasse nos catégories. Dans la scène du trône en Ésaïe 6, la répétition « Saint, Saint, Saint » vise à étirer notre imagination. « Autre, autre, autre ». C'est ça que Dieu est en train de dire. C'est ce que les séraphins sont en train de déclarer. Dieu est celui qui est autre, autre, autre. Ce n'est pas simplement le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, Saint, Saint, Saint. Non, premièrement, ce n'est pas ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est que Dieu est tellement autre qu'une fois que tu dis, « OK, je pense que je commence à comprendre qu'il n'est pas comme nous. » Non, c'est autre encore, puis c'est plus loin encore. On n'a pas les mots pour dire à quel point Dieu est infiniment grand et dépasse tout ce qu'on peut concevoir, tout ce qu'on est capable d'imaginer. Tout ce que les séraphins peuvent décrire. Le seul mot qu'ils trouvent à utiliser, c'est « saint, 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 autre, autre, autre », car ils sont eux aussi des créatures de Dieu. Le seul qui n'est pas créature, c'est Dieu. Et donc, ils dépassent complètement notre entendement. Et ce que Dieu est en train de faire ici dans Ésaïe 6, il est en train d'étirer notre imagination. Et l'idée, ce n'est pas de nous amener à un endroit où on dit « OK, mais finalement, je ne peux pas le connaître ». Non, puisque Jésus dit « Celui qui m'a connu a connu le Père ». Oh! Celui qui a connu Jésus a connu celui qui est autre, autre, autre. Et là, j'ai du stock à méditer, là. Je veux le connaître parce que j'arrive à toucher, à saisir, à voir, à comprendre, à avoir le sentiment que je comprends l'être qui est autre, autre, autre. Donc, l'idée, ce n'est pas de créer une distance, c'est d'étendre notre imagination. Pour dire, écoute, quand tu as l'impression que les choses ne vont pas, c'est cet être-là qui te dit, tu es à moi. Ton quotidien est entre mes mains chaque seconde. Ton souffle est entre mes mains. C'est cet être-là qui te dit, je t'aime, j'ai donné mon fils pour toi. On est dans Romains ce matin, là, excusez, je me promène entre ma prédication puis le texte. Et puis il dit, la terre est pleine de sa gloire. La terre entière est pleine de sa gloire. Je l'ai dit, je pense, dans les deux dernières semaines, mais C.S. Lewis disait ceci. Hein? Il disait, Dieu est très, très, très négligent. Il laisse des indices de son existence partout. Ça traîne partout. La terre est pleine de sa gloire. Les chrétiens, lorsqu'ils sont malheureux, devraient aller prendre une marche, devraient aller au cinéma, écouter un film, puis voir ce que l'être humain arrive à faire. Juste prendre un repas, puis s'arrêter, puis dire, qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce qui me parle de Dieu ici? Parce que tout parle de sa gloire. Nous, on est un peu bêtes. T'sais, là, on est dans quelque chose, on dit, non, moi, il faut que j'aille dans la nature. C'est Tim Keller qui m'a fait ouvrir les yeux là-dessus. Les gens disent, moi, je veux être près de Dieu, fait que je vais aller dans la nature. C'est quoi la plus belle chose que Dieu a créée? La seule chose qu'il a créée qui est à son image dans l'univers, c'est l'être humain. Fait que si tu veux être près de Dieu, va dans une ville où il y a 6 millions d'êtres humains. Toi, tu vas dire, oui, mais il y a beaucoup de péchés. Je sais, mais il y a beaucoup de gloire. Il y a beaucoup de gloire. Fait que je suis ici, puis là, je regarde le bâtiment, puis là, je dis, oui, mais tout est artificiel, ça ne me parle pas de Dieu. Attends, une chaise, ça ne te parle pas de Dieu? L'intelligence qui a créé cette affaire-là vient de Dieu. C'est absolument fantastique. Vous n'avez pas besoin de vous tenir debout. Vous pouvez vous asseoir, peut-être même commencer à somnoler un peu en m'écoutant. C'est grâce à cette merveilleuse invention. C'est Dieu qui l'a fait. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Nous, on fait des espèces de dichotomies. On fait des dualismes. Ce qui est matière est mal, ce qui est esprit est pur. Wow, t'es loin de la Bible, mon ami. T'es vraiment loin des Écritures. Non, c'est Dieu qui a créé la matière. Maintenant, avec le mal, avec la matière, on peut faire beaucoup de mal aussi. Ça, il n'y a pas de doute. Mais la matière est glorieuse. C'est Dieu qui l'a créée. Ça nous vient directement du cœur de la pensée de Dieu. Toute la terre est pleine de sa gloire, souligne l'ampleur. La sainteté de Dieu n'est pas petite, locale ou marginale. Et donc, je devrais demander à Dieu de m'aider à voir sa gloire à chaque instant. Ésaïe 6, 1 à 3. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc, vous avez les séraphins qui sont dans la présence de Dieu, puis le message qui se lance un à l'autre, c'est « autre, autre, autre ». Il dépasse tout ce que toi et moi, on arrive à saisir, à appréhender, à comprendre maintenant. Définition, saint. Saint, ça veut dire 2 choses. Mis à part, dans le sens de « autre », complètement différent. Et pureté. Les deux sont là, d'accord? Donc, saint égale séparé, unique, incomparable. Dieu est le grand autre. Il est saint. Il est à part. Et lorsque nous, on est appelé à être saint, on est appelé à être à part, consacré à Dieu. On va être autre des gens du monde. Qui nous disent les Écritures appartiennent au diable. Ils ont pour parler le diable. Maintenant, j'avais pour parler le diable. Maintenant, mon Père, c'est Dieu. C'est celui qui est saint, saint, saint. Et donc, je suis appelé moi aussi à être saint. Je suis appelé à être mis à part, autre. Maintenant, Dieu est saint, saint, saint. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de barème. Nous, on se positionne, on se définit toujours en rapport avec d'autres personnes. Dans tous les domaines, ta grandeur, ton poids, ta santé, ta richesse, ta gentillesse, ta douceur, tu vas te comparer à des gens autour de toi. Dieu ne possède rien pour se comparer. Parce qu'il est incomparable. L'univers et l'extension de l'univers n'est pas une bonne comparaison, ce n'est pas un bon point de comparaison pour définir la grandeur de Dieu, parce que l'univers est beaucoup trop petit pour définir la grandeur de Dieu. Probablement qu'on peut dire que l'univers est infiniment trop petit pour définir la grandeur de Dieu. Donc, Dieu est autre, il est incomparable. Ce qui est merveilleux, c'est que cet être-là qui est autre franchit la distance pour se faire connaître à nous. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on puisse l'adorer, pas simplement en disant à la lumière de la création, il y a un être à quelque part extraordinaire qui a créé tout ça. Non, à travers les Écritures, il vient se révéler à nous. C'est ça qui est merveilleux. Mais la sainteté de Dieu nous dit que Dieu est hors de toute norme de comparaison. Est-ce que vous avez des questions juste sur ça avant qu'on parle de la pureté? Questions, commentaires? C'est vrai, tu as raison. Alors, Célia dit, les choses célestes nous sont incompréhensibles. C'est pour ça que Jésus est très terre à terre avec des paraboles. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas les comprendre, pourtant Dieu veut qu'on les contemple. D'accord? Donc, c'est pour ça que le début de la leçon commençait avec l'idée de notre imagination, qui ne sert pas à combler des vides, comme à inventer des histoires qui ne sont pas dans la Bible. Un des petits cousins à Esther, avec qui je discutais beaucoup, beaucoup de la foi, c'était un catholique très pratiquant, il était tombé sur les révélations catholiques de Vasula Riden, puis de Maria Valtorta, puis Vasula Riden disait que Jésus lui parlait puis lui racontait toute son enfance. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et il m'a dit, écoute, c'est extraordinaire. Après 4 pages de lecture, je dis, mais ça contredit la Bible. Ce que je lis là, ça contredit la Bible, c'est diabolique, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Donc, ce n'est pas que mon imaginaire est là pour combler des vides comme inventer une histoire, mais pour contempler. Et donc, je vais dans la prière. Oui, l'image qui va venir, ça va être un coucher de soleil. L'image, ça va être d'un feu. Là. Dans quelques semaines, je prends une semaine de vacances avec Esther. On s'en va à Rivière-du-Loup, mois de mars, feu de bois dehors. Je passe 3 heures devant le feu, je trippe. Puis ça me parle d'un Dieu qui est comme plus grand que tout ce que je peux concevoir parce que les flammes me fascinent. Je trouve ça merveilleux. Je vais regarder un ciel étoilé dans le bas du fleuve. Ça n'existe pas à Montréal, fait qu'on va là-bas. Mais je vais voir. Et donc, mon imaginaire va me servir à essayer de concevoir celui pour qui il n'y a pas de comparaison. Donc, c'est vrai, je ne peux pas saisir ces choses-là, mais Dieu veut que je les contemple. Oui, c'est ça. Donc, on veut étudier. Si on n'étudie pas la sainteté de Dieu, c'est pour ça que je disais tantôt, on va avoir tendance à la lumière de l'Évangile, on va déformer l'Évangile parce qu'on va penser que l'Évangile, la grâce est tellement grande que Dieu devient mon pote, qui vit très bien avec mes péchés. C'est comme... Mais la grâce ne conduit pas Dieu à vivre très bien avec mes péchés. Ça a pris la croix. Oui, Denis. Oui. Comme quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, il n'y a pas deux vérités, il y en a une seule, mais il veut juste insister sur le fait que c'est important.
Oui.
Exactement. Je pense que tantôt, tu n'étais pas arrivé. La manière que je l'expliquais, là, Denis fait le commentaire que Saint-Saint-Saint ne veut pas dire comme 3 dimensions ou 3 aspects différents de la sainteté de Dieu, mais plutôt un emphase. La manière que je le comprends, c'est comme si Dieu est en train de dire, les séraphins sont en train de dire, Dieu est autre. Quand vous serez rendu là, non, Dieu est autre. Puis quand vous serez rendu là, Dieu est autre. Fait que vous ne pouvez pas concevoir à quel point Dieu est à part. Il est infiniment autre. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. C'est ma compréhension. Donc, premièrement, il est unique, incomparable. C'est ça que le texte nous révèle, le fait qu'il est unique et incomparable. Et deuxièmement, ça nous parle de sa pureté. parce que la sainteté parle de la pureté de Dieu. Dieu est sans reproche, sans faute morale. Absolument, Dieu est d'une pureté sans mélange, dans un espace moral qu'aucun être ne pourra jamais occuper. Et donc, la bonne réponse à quelqu'un qui dit, qui doute de la moralité de Dieu. L'être humain doute de la moralité de Dieu en regardant le mal dans le monde. On comprend. Je veux dire, il y a plein de chrétiens qui luttent avec ça. Donc, on comprend ça. Mais la réponse que je devrais donner avant d'essayer d'expliquer les choses, c'est de dire, tu ne saisis pas qui est Dieu. Pour penser que Dieu est moralement douteux, c'est que tu ne saisis pas qui est Dieu. Et Dieu est au-dessus de toute immoralité. Puis c'est intéressant parce que les philosophes grecs, lorsqu'ils ont commencé à concevoir cette possibilité-là d'un seul Dieu, en rencontrant la théologie et tout ça, bien, en philosophie, lorsqu'on définit Dieu, Dieu, ultimement, doit être absolument parfait. Parce que si Dieu est Dieu, toute imperfection ferait qu'il serait moins que Dieu. D'accord? Donc, Dieu, par définition, doit être la perfection. Mais ça sous-entend qu'il va être la perfection morale. Et c'est ce que les Écritures nous disent. Donc, tout ce qui me trouble, tout ce qui me choque dans la vie, tout ce qui fait que j'ai comme une lutte, un combat avec Dieu. On est dans Job, dans le plan de lecture biblique, puis j'aimais tellement ça, cette idée où Job dit, il souffre tellement qu'il dit, « Dieu, enlève-moi la vie parce que j'ai peur d'en venir à te maudire tellement je souffre. » Sa crainte, c'est pas de souffrir. Sa crainte, c'est qu'il dit, « Je pourrais m'en prendre à ton nom tellement je souffre, alors enlève-moi la vie. » Bon, Job va aller loin là, dans toutes ses luttes, ses combats. Mais c'est une belle prière parce qu'il dit, « Il n'est pas question que je, d'aucune manière, ce serait acceptable que je doute de toi, Dieu. Je préférerais mourir que de commencer à douter de toi. » Hey, si on pouvait avoir cette attitude-là en toutes circonstances, les chrétiens contemporains, là, occidentaux, là, wow, c'est génial. Dieu est d'une pureté sans mélange dans un espace moral que nul n'occupe. La sainteté n'est pas un aspect de Dieu, elle est l'essence de tout ce qu'il est. Alors nous, on est des fois bons, des fois méchants. On a comme un interrupteur sur la question. On, off, on, off. Puis même quand on est on, nous disent les Écritures, il y aurait encore assez de pollution dans notre bonté pour nous condamner. Dieu n'a pas de off sur la sainteté. Il est par nature saint. C'est l'image que j'ai déjà donnée dans une prédication. Je disais, c'est comme si tu... nous, on a tendance à croire que Dieu est un interrupteur, comme si... Tu sais, j'approche de quelque chose qui est dangereux, où il y a une charge électrique qui serait dangereuse, puis ce qu'on s'assure, c'est que l'interrupteur est enlevé. Mais Dieu, c'est pas qu'il n'y a pas d'interrupteur, c'est que Dieu est l'électricité. C'est sa nature. Il ne peut pas se mettre en pause lui-même. Il est toujours saint. Et donc, il n'y aura pas de défaut en lui, c'est ce qu'il est par nature. Pour nous, ce n'est pas concevable, parce que on fait autant le bien que le mal. Puis là, quand on pense faire le bien, tu réalises 2-3 ans plus tard que tes motifs étaient quand même pas tout parfaits, tu sais. Mais Dieu, dans sa nature propre, est saint. C'est pas un attribut seulement de sa personne, c'est ce qu'il est fondamentalement. Il est autre et il est parfaitement pur. Alors, si on demande comment la sainteté de Dieu se manifeste, mais se manifeste dans tout, dans sa justice, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa puissance, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, dans sa patience, dans sa colère, dans sa grâce, dans sa fidélité, dans sa compassion. Et nous, il y a plein de choses là-dedans que lorsqu'on pense au mot colère, on se dit mal, tu sais. Non, c'est la sainteté de Dieu qui fait que la colère de Dieu est là. Exode 15, 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Et c'est une question rhétorique. La réponse, c'est personne. Personne n'est comme toi en sainteté. Nul n'est comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Allez, amis, si on peut s'asseoir sur cette vérité-là, là, vous allez juste passer une belle semaine, même si vous appreniez cette semaine que vous avez un cancer puis vous allez mourir dans 3 semaines. C'est possible de passer une belle semaine par la foi. Et là, 55 ans, là, j'ai assez souffert pour pouvoir prétendre ne pas parler à travers mon chapeau. Pourquoi cette doctrine est centrale? La sainteté de Dieu est au cœur du grand récit biblique. Alors, c'est là d'un couvert à l'autre. Ça commence dans le jardin, dans la Genèse, jusqu'à la fin de l'Apocalypse. La sainteté de Dieu, c'est un fil conducteur à travers toutes les Écritures. C'est ce qui fait que Dieu va manifester sa gloire dans la création. C'est ce qui fait que nous allons être privés de sa gloire par le péché. C'est ce qui va le conduire à manifester la grâce. Je dis souvent, dans le jardin d'Éden, avant la chute, il y a des aspects de la sainteté de Dieu qui ne sont pas révélés. Parce que la rédemption n'est pas encore présente. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous révèle des angles de la sainteté de Dieu qui ne sont pas manifestés avant la chute. Ça prend la chute. Alors, si à quelque part vous êtes là et vous regardez le récit comme de l'humanité, puis dans le fond de vos tripes, vous dites qu'il y a quelque chose qui a mal tourné. Bien, à un certain degré, à notre échelle, à nous, oui, on a péché, ça a vraiment mal tourné. À l'échelle de Dieu, il n'y a rien qui a mal tourné. L'histoire de l'humanité, ce n'est pas une catastrophe. C'est l'histoire de la gloire de Dieu. Et il y a plein de catastrophes, il y a plein de souffrances, puis il y a plein de péchés. Mais Dieu n'a rien échappé, là. La plus belle toile du plus grand artiste, c'est triste, c'est fade, c'est pathétique comparativement à la toile que Dieu est en train de brosser. Est-ce que vous êtes déjà tenu devant des toiles qui sont vraiment immenses, là, tu sais, comme presque grand comme l'estrade? Vous avez déjà vu ça dans des musées? Oui, au Louvre. Il y en a qui sont allés au Louvre, vous avez vu des toiles extraordinaires. Moi, je suis comme... Puis là, ça pourrait être ta visite du musée, c'est juste de t'asseoir devant la toile puis de l'étudier pendant 6 heures. Parce que c'est incroyable. Ça, là, vous vous rappelez, ceux qui ont connu la télévision en noir et blanc, là? Moi, je ne suis pas né à l'époque de la télévision noir et blanc, mais on avait une télévision noir et blanc à la maison quand même. Bien, c'est ça, là, la plus belle toile de Michel-Ange, ça a l'air d'un vieux noir et blanc ou des... hiéroglyphe au fond d'une caverne, là, je ne sais pas trop quoi. Là. Comparé à ce que Dieu est en train de faire. Puis nous, on est là, on regarde le monde, on regarde la terre, hey, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Oui, à notre échelle, ça va vraiment mal. Mais à l'échelle de Dieu, c'est absolument glorieux ce que Dieu est en train de faire. Dieu n'a rien échappé. Dieu n'a rien échappé. Mais rien échappé. Et si tu t'en vas dans la vie en oubliant ça, parce que là, on parle juste de la sainteté de Dieu, il est parfait. Si tu t'en vas dans la vie en oubliant ça, quelle sorte d'évangile tu vas annoncer aux gens? Tout petit évangile. Tu sais, crois en Jésus, tu vas te sentir un peu mieux parce qu'il t'a pardonné. Non, 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 c'est pas ça. C'est que, tu sais, sur une fresque de Michel-Ange, il y a des ondes d'ombre puis il y a des ondes de lumière. Crois en Jésus, tu viens de passer dans une zone de lumière pour l'éternité. C'est ça qui vient de se passer. Mais n'oubliez pas la fresque, les amis, parce que lorsqu'on oublie la sainteté de Dieu, on oublie cette toile-là. Et notre Dieu devient tout petit, c'est un Dieu thérapeutique. Il peut t'aider, là, tu vas te sentir mieux. Mais oui, c'est vrai, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Mais quand tu t'approches de Jésus, qu'est-ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit? Il nous dit, « On s'est approché de la montagne sainte. » Parce que je viens en contact avec la révélation du Dieu qui est saint, saint, saint quand je m'approche de Jésus. Cette doctrine est centrale parce que c'est le fil conducteur de toutes les Écritures. F, sainteté et grâce, la bonne direction de la crainte. toute explication fidèle de la sainteté doit conduire à rechercher et à célébrer la grâce. Ça nous conduit à l'Évangile. Si je vous explique la sainteté et que vous êtes terrifié, vous partez d'ici terrifié, vous dites « je ne veux pas m'approcher de ce Dieu-là ». Soit dit en passant, c'est le Dieu qui est présenté dans l'islam, par exemple. Il est autre. L'idée d'une incarnation de Dieu qui viendrait parmi les hommes, c'est un blasphème total. J'écoutais encore ce matin le récit d'un musulman qui s'est converti. Puis il dit, pour moi, c'était inconcevable que Dieu se soit fait homme. C'était un blasphème, c'était inconcevable. Alors, toute étude de la sainteté doit nous conduire à l'Évangile, à la grâce. La sainteté révèle le péché et notre besoin de grâce. La grâce nous attire vers Dieu au lieu de nous faire fuir dans la terreur. Celui qui est saint, 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 rappelez-vous ce qui se passe avec Ésaïe, hein? Il accède à la présence de Dieu. Christ est présenté comme le sacrifice parfait pour des hommes imparfaits. Comprendre la sainteté rend la grâce inévitablement précieuse. La sainteté de Dieu détruit notre autonomie. J'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce pour m'approcher de ce Dieu-là. Et là, je peux vraiment revoir l'Évangile encore une fois et dire, waouh, incroyable. Père, je peux t'appeler Père. Mais j'aime ça savoir que tu es saint, saint, saint avant de t'appeler Père. Parce que là, Père prend tout son sens. Je ne suis pas un adolescent qui est en train de cracher en pleine face de ses parents parce qu'il est rebelle et ingrat. Non, je réalise que celui que j'appelle Père, c'est celui qui est saint, saint, saint. C'est incroyable. C'est merveilleux. La grandeur qui remet tout à sa place, l'expérience d'un plus grand écrase les grandeurs secondaires. C'est ce que j'évoquais un peu tantôt quand je disais, quand je prends la mesure de la sainteté de Dieu puis je réalise que Dieu est là pour moi, les épreuves de la vie prennent une autre proportion. Les ennemis de mon âme, les ennemis qui sont autour de moi, les gens qui pourraient me faire du mal, prennent une autre proportion. Notre auto-évaluation diminue, les fausses gloires perdent leur pouvoir, même ce qui est impur cesse de paraître impressionnant. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est impressionnant. Quand je prends la mesure un peu de la sainteté de Dieu. Maintenant, la sainteté de Dieu dans la vie quotidienne, la sainteté de Dieu doit être centrale pour comprendre la vie. Tout le monde vit théologiquement avec des présupposés. Mais si la sainteté de Dieu n'est pas au centre, on comprend mal l'univers, on en a parlé déjà, notre vie à nous, mon rôle à moi sur la terre, c'est quoi mon appel comme être humain? Qu'est-ce qui, dans ma semaine, agit comme centre interprétatif réel? Cette semaine, est-ce que tu as vécu des émotions, puis comme une manière de voir les défis de la semaine, comme celui qui connaît celui qui est saint, saint, saint et qui est protégé, qui est sous la protection de celui-là? Ou est-ce que ton cœur était rempli de tristesse, d'anxiété, de stress, de frustration, de colère, de médisance, d'amertume? Plutôt que de vivre la paix. Tu sais, le passage de Philippiens, là, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Mais quand tu viens vers ce Dieu-là pour prier, oh, c'est incroyable. Là. Se reposer dans cette paix-là, de savoir que c'est cet être-là à qui j'apporte mes besoins et qui me promet qu'il prend soin de moi. La sainteté de Dieu fournit le seul moyen fiable de nous connaître. Face à la sainteté, Ésaïe ne commence pas par commenter le spectacle. Il se voit lui-même. Jean Calvin disait... Toute théologie systématique doit commencer par la doctrine de Dieu plutôt que les Écritures. Je pense que j'ai évoqué ce débat-là dans les théologies systématiques des dernières semaines. Puis pourquoi il disait ça? Bien, il dit parce que l'être humain ne peut se connaître que lorsqu'il commence à connaître Dieu. Avant ça, tu as l'impression que tout gravite autour de toi. Je ne sais pas si vous avez vécu comme moi un moment ou à quelque part quand mon cerveau a commencé à être capable de faire des abstractions. Ça arrive à quelque part au début de l'adolescence ou quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que Montréal n'était pas la ville au centre de la Terre. Je me souviens encore de cette émotion-là. Je disais, attends un petit peu, là, comme l'attention de la terre entière n'est pas sur Montréal. C'est juste une ville, puis il y a plein de gens qui ont comme d'autres centres pour leur vie. Mon cerveau commençait à être capable de faire des abstractions philosophiques. Bien, c'est ça qui se passe quand tu vois la sainteté de Dieu. Tu n'es plus le centre. En fait, tu es émerveillé d'être considéré par Dieu. Là, tu dis, quoi, tu me connais? Tu connais mon nom? Wow! Tu n'es plus le centre. Mais ça, c'est un des bénéfices immédiats de saisir ça face à la sainteté. Ésaïe ne commence pas par commenter le spectacle. Wow! Non, il prend conscience de ce qu'il est, puis il dit, mais je suis rien, je ne devrais pas être ici. La vraie connaissance de soi doit inclure la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour vivre pour sa gloire. Conversation en famille, parler de la grâce et ouvrir les yeux des enfants à la sainteté. Sinon, la bonne nouvelle ne signifie rien, hein? C'est comme un évangile thérapeutique avec des conseils. Tu vas voir, Jésus peut t'aider à gérer ton budget, là. C'est bien, c'est très bien, mais il y a beaucoup plus que ça, là. Et donc, si nos enfants n'ont pas cette conception de la sainteté de Dieu, ils n'auront pas de crainte de Dieu. Et c'est pas là que, vous comprenez, c'est pas un, je suis pas en train de raconter à mes enfants l'histoire d'un ogre qui va venir te chercher dans la nuit, là. Certaines personnes annoncent l'Évangile à leurs enfants où ils n'entendent pas l'Évangile. Tout ce qu'ils entendent, c'est que Dieu est en colère contre leur péché. Vous n'avez pas annoncé l'Évangile si vous avez fait ça. Comme j'ai dit tantôt, comprendre la sainteté de Dieu ne devrait pas nous amener à fuir loin de lui comme si c'était un être machiavélique. Il n'est pas machiavélique. Il est parfait en amour puis en grâce. Donc la sainteté de Dieu, ce n'est pas que ça va m'amener à le fuir. Ça m'aide à prendre la mesure de qui je suis, de qui il est. La sainteté de Dieu nous confronte au caractère pécheur du péché. Le péché est trompeur. Il se présente comme petit, agréable, excusable. Et là, quand tu t'approches de Dieu dans sa sainteté, tous ces péchés-là, hein, des petits péchés véniels, c'est ce qu'on disait dans l'Église catholique, tous ces petits péchés véniels-là, ils ont comme plus de sens. Il n'y a rien de véniel dans un péché. Pas dans la présence de Dieu. J'aime ça lorsqu'il dit ça, ça serait un peu long de développer, mais le plus pécheur du péché, ce que l'aspect le plus horrible du péché, c'est sa verticalité. C'est en fait, c'est pas l'impact sur les gens autour de moi ou les impacts sur moi, c'est l'impact sur Dieu. David dit, « Contre toi seul, j'ai péché. » Attends, tu as péché contre ta famille, contre Bathsheba, contre Uri, contre le peuple d'Israël, j'oserais dire même contre toi-même. Mais David ne dit pas ça. Puis je veux dire, ça serait vrai, là, les conséquences sont abominables pour sa famille, pour plein de monde. Il y a un homme qui va mourir à cause de lui, il y a un mariage qui est détruit à cause de lui. Contre toi seul, j'ai péché. Le plus pécheur du péché est sa verticalité. Et nous sommes souvent entraînés juste à regarder, est-ce qu'il y a des conséquences pour moi, est-ce qu'il y a des conséquences autour? S'il n'y en a pas, merci Seigneur, tu m'as fait grâce. Il t'a fait grâce parce qu'il n'y a pas de conséquences à ton péché. Oui, mais encore, est-ce que tu veux une communion avec lui? Est-ce que tu veux marcher par l'Esprit? Personne ne m'a vu, il n'y a pas de problème. Merci Jésus, je te demande pardon. Ah non, mais j'ai... C'est ma relation avec lui. Alors, j'aime l'idée de se retirer, je suis au haut de la prochaine page, couper les distractions, se mettre à genoux, confesser le fait qu'on a tendance à minimiser nos péchés. Oui? Oui. Oui.
J'ai entendu des chrétiens me dire, c'est contre Dieu seul, oui, mais moi, je te dis, oublie pas, le Seigneur me parle du pardon. Si en quelque part, on demande pardon à Dieu, mais si ça impliquait un membre de la famille, un autre chrétien, n'importe qui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander pardon. Tu comprends-tu ce que je veux dire?
Comme si ce verset-là, lorsque David dit « Contre toi seul, j'ai péché, je n'aurais pas à réparer avec les gens. » Non, c'est ça. Oui, je comprends. Mais les Écritures enseignent clairement le principe de réparation. Ça, c'est très clair. Et donc, quand David dit « Contre toi seul, j'ai péché », je ne pense pas qu'il est en train de dire une vérité dans l'absolu. Je pense qu'il est en train de dire une vérité en ce sens que c'est avant toute chose, c'est contre toi que j'ai péché. D'accord? Mais je veux dire, on le sait parce que Dieu va entraîner un paquet de conséquences. Donc c'est, ce que je suis en train de dire, c'est si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai péché, quel que soit le péché, ce qui devrait m'attrister le plus, c'est ce que j'ai fait dans ma relation avec Dieu. Et après ça, de ça vont découler plein de bonnes choses. D'accord? Mais autrement, je vais négocier. Je ne sais pas, je manque de respect à Suzy, tu sais, j'y parle dur ou quoi que ce soit. Je vais juste négocier comme, écoute, je suis désolé, on est-tu cool? Oui, mais c'est peut-être plus que ça. Pourquoi j'ai eu du mépris? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça venait d'où, ça? Et c'est sûr que je ne peux pas faire une autopsie de tous mes péchés. Dieu ne me demande pas de faire ça, mais quand je me recueille devant le Seigneur, je prends la mesure de ce que je suis, de ce qu'il est, de la grâce. Ça me conduit dans une adoration qui est plus riche. Je dois essayer de compléter en 30 secondes. Je m'excuse. Je me suis un peu emballé sur la sainteté de Dieu. Point 5. La gloire de la sainteté de Dieu nous pousse à nous donner à sa mission de grâce. Hein? Ésaïe passe de la confession à la disponibilité. « Me voici, envoie-moi. » Parce que, écoutez, là, lorsque je prends la mesure de qui est Dieu, je sais ce que tous les âmes qui vont se présenter devant Dieu un jour sans la grâce vont vivre. Je prends cette mesure-là et je prends la mesure de l'Évangile. Fait que si quelqu'un me dit, écoute, moi, je ne veux rien savoir de ce Dieu-là, il est trop dur. Attends, s'il te plaît, laisse-moi te parler de Jésus. Toi, est-ce que tu donnerais ton fils pour moi? Es-tu prêt là, à sacrifier ton enfant? Je me fais kidnapper, là, puis les kidnappeurs demandent une chose, c'est que Suzy donne son enfant pour moi. Excuse-moi, Suzy, je te prends un exemple ce matin. Est-ce que tu es prêt à le faire? Laisse-moi te parler de l'Évangile. Je comprends que tu ne comprends pas qui est Dieu, puis comme tu as toutes des idées préconçues, puis tu rejettes ce Dieu-là comme étant immoral, mais laisse-moi te parler de Dieu. La gloire de la sainteté nous pousse à nous donner à sa mission de grâce. J'aime cette idée. L'Église ressemble trop souvent à un géant endormi. Parce que le message qu'on a est immense. C'est immense. La sainteté de Dieu explique pourquoi nous ne dépasserons jamais la grâce. On ne passe pas à autre chose de plus grand que la grâce pour nous. Parce que ma sainteté ne sera jamais la sainteté de Dieu. C'est intéressant, c'est plus un argument apologétique, là. Il va falloir que je m'arrête ici puis que je vous laisse avec les notes dans 5 minutes. Mais au point 7, c'est intéressant. Apologétique, la défense de la foi. D'accord? Donc, il y a un argument apologétique qui est fait au point 7 qui est intéressant. Tous aspirent à un monde gouverné par un Dieu saint. Quand on souffre de voir le mal dans le monde, dans le fond, on aspire à ce que les choses soient bien faites. Que ce soit dans le domaine du partage des richesses, que ce soit dans le domaine de l'accessibilité aux soins, on voudrait que tous les êtres humains puissent voir un médecin sur demande, n'est-ce pas? On voudrait que tous les pays de la Terre soient aussi sécuritaires que là où on vit. C'est pas parfait, mais mes amis, que c'est sécuritaire, c'est incroyable. J'ai ouvert mes yeux quand j'ai commencé à voyager, puis j'ai dit, mais la majorité des gens vivent derrière des clôtures. Ils mettent des barreaux sur leurs fenêtres. Je ne sais pas, là, tu oublies les clés, tu oublies de barrer la porte de ta maison, là, puis tu es au travail. Est-ce que tu vas souffrir, tu vas faire une attaque de panique toute la journée? Moi, ça devrait bien aller, là. Je ne vous dis pas que j'aimerais pas que ma porte soit barrée, là, mais je devrais réussir à faire ma journée pareil. Les chances que ça, tu sais... J'ai pas un chien enragé dans ma maison pour me protéger. Rien contre les chiens. On a eu un berger allemand. J'aime énormément les chiens. Mais vous comprenez, je ne sens pas le besoin d'avoir deux Doberman dans ma maison. Donc, je voudrais que toute la Terre soit aussi sécuritaire que là où je vis. Fondamentalement, l'être humain voudrait que l'univers soit gouverné par un Dieu saint. Mais on ne le reconnaît pas parce qu'on ne veut rien savoir de ce Dieu-là. On est rebelle contre ce Dieu-là. Mais c'est ce Dieu-là qu'on veut annoncer aux gens. Imagine un univers où un être parfait, juste, bon, gouvernerait tout. Ce serait incroyable, hein? Ils vont dire, oui, j'aimerais ça le connaître parce que je ne sais pas où il est parti. Il est parti en vacances. Bien, laisse-moi te parler de lui parce qu'il est là. Il est là puis il a donné son fils pour toi. Puis fais-toi-en pas, la justice s'en vient, ça va faire mal. Ça va faire mal, ça s'en vient. Fais-toi-en pas. Dépêche-toi d'examiner ton dossier à toi. Fait que j'aime cet argument-là apologétique. Juste voir où est-ce que je peux conclure ce cours. On va aller vers les questions de mise en application. Vous avez les notes. Question de mise en application. Vous pouvez jaser de ça cette semaine dans votre groupe connexion avec des amis, prendre un café à la maison. Dans quel domaine ai-je tendance à vivre comme si la sainteté n'existait pas, fonctionnellement? Hein, le but du cours, c'est de réduire l'écart entre ce qu'on professe et ce qu'on fait, ce qu'on vit. Mon mariage, mes paroles, la sexualité, l'argent, l'anxiété, les loisirs, l'ambition, mon image de moi-même. Qu'est-ce qui concrètement m'aide à remettre le gratte-ciel en vue? Dieu immense! Qu'est-ce qui concrètement m'aide à recadrer toute chose à la lumière de la sainteté de Dieu? Prière, silence, c'est vous qui avez votre réponse pour ça. J'ai un ami qui ne prie jamais sans un crayon. Toutes ces prières sont écrites. Moi, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout, là. Est-ce que tu as un lieu, est-ce que tu as une discipline spirituelle ou plusieurs qui te permettent de faire ça? Puis si vous dites, écoute Yannick, je comprends ton histoire de la ville puis de la forêt, mais moi, quand je vais dans la nature, c'est là que je me sens le plus près de Dieu. Présent, c'est ça la vérité, là. C'est quand je vais à la chasse, c'est pas seulement pour avoir une arme à feu, c'est parce que je vais être dans la nature. Mais oui, moi, il n'y a rien qui me recentre autant qu'être arrêté sur le bord d'une rivière, seul au fond des bois, avec ma Bible, puis un petit slingshot à côté, juste au cas. Mais vous comprenez que la majorité du temps que je passe là, c'est à adorer mon Dieu incroyable. Donc, qu'est-ce qui concrètement m'aide à remettre le gratte-ciel en vue, la sainteté de Dieu? Où ai-je minimisé le péché en l'habillant d'un autre nom? Qu'est-ce que ça révèle sur mon besoin de grâce? Notre familiarité avec le péché fait qu'on a toutes sortes de noms pour le péché. Ça peut être utile, tu sais, si je dis j'ai une dépendance. C'est utile de... Il y a des péchés qui sont des dépendances, c'est correct, c'est utile. Mais ce n'est pas suffisant si c'est un péché. Il faut que je l'appelle péché, il faut que je dise que c'est une offense à Dieu. Même si je sais que je n'arriverai peut-être pas à m'en débarrasser demain matin, ça va l'être encore. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'expérimenter ceci? Vous n'avez pas envie de confesser à Dieu un péché parce que vous dites, Seigneur, je sais que je vais le refaire. Moi, j'ai déjà été tourmenté au début de ma vie chrétienne par certains péchés où je disais, Seigneur, je me sens complètement hypocrite, comme j'ai pas le goût de venir te confesser mon péché, pas parce que je le regrette pas. C'est parce que je suis tellement pathétique que je vais repêcher demain. Mais je m'en viens de traiter avec Dieu, vous comprenez? C'est parce que je prends la mesure. Je ne m'étais pas acclimaté avec mes péchés au point de ne pas vivre ça. Non, je vivais ça et je retournais à l'Évangile, je retournais à la grâce. Si la sainteté est ma quête suprême, que dois-je réordonner cette semaine? Agenda, écran, relations, dépenses, routine. Où est-ce que la sainteté de Dieu viendra avoir un impact dans ta semaine? Ton emploi du temps, ton emploi de ton temps, de ton argent, tes relations, ton regard, tes pensées, ton cœur. Ton cœur est constamment dans l'amertume. Il n'y a aucun espace pour la contemplation de la sainteté de Dieu. Tu devrais être en louange, pas dans l'amertume. Non, tu es constamment anxieux. Ça, c'est plutôt mon genre. Tu es stressé, tu es anxieux, mais tu es supposé être dans la paix, dans la joie. C'est pas simple, mais si je retourne, hein, question 2, je retourne, on replace le gratte-ciel. Seigneur, je viens dans ta présence. Donne la question, où Dieu m'appelle-t-il plus simplement? À dire plus simplement, me voici, envoie-moi. Je suis disponible, Seigneur. T'es merveilleux. Je suis disponible. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous permet d'explorer des vérités aussi riches et merveilleuses. Je te prie, Seigneur, de nous aider à intégrer ces choses-là, que ça vienne élargir notre compréhension de toi, notre vision de toi, et que ça vienne transformer notre expérience, nos émotions, notre manière de vivre le quotidien, Seigneur. Seigneur, parle-nous encore de ta sainteté cette semaine dans toutes sortes de domaines de notre vie. Là où on a perdu de vue ta grandeur et ta majesté. Et Seigneur, donne-nous la joie de revenir à l'Évangile chaque jour pour poursuivre cette sainteté que tu veux produire en nous, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Merci. On se retrouve la semaine prochaine où vous êtes avec Basile, je suis certain. Basile ou moi.